Dans notre dernier épisode consacré à l'année 1983, le boucher de Lyon, extradé vers la France, une femme prisonnière depuis 40 ans dans le Cantal, les étudiants en médecine dans la rue, le hold-up du siècle en Angleterre et le gang des postiches en France. Et puis pour le plaisir, un théâtre pour chiens.
1983, Ondelat raconte sur Europe 1.
En janvier 1983, après 38 années de cavale, l'ancien SS Klaus Barbie, qui se cachait en Bolivie, est extradé vers la France pour être jugé comme criminel de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Klaus Barbie dirigeait la Gestapo lyonnaise. Il serait responsable de l'exécution de plus de 4000 personnes et de la déportation de 7500 juifs, dont la plupart sont morts à Auschwitz. Il torturait lui-même ses victimes. Et il a eu entre ses mains le résistant Jean Moulin. Du coup, l'arrivée en France de celui qu'on a appelé le boucher de Lyon se déroule sous très haute surveillance.
Il était 22h20 hier soir quand les portes de la prison Montluc se sont refermées sur l'ancien chef de la Gestapo lyonnaise. Ainsi s'achevait une journée riche en rebondissements. Il doit arriver à l'aéroport de Satellas où tout le monde l'attend. Eh bien non, il arrive à la base d'Orange dans le plus grand secret. De là, il prend un hélicoptère pour atterrir sur un petit terrain militaire près de Lyon. Il doit aller au palais de justice. Eh bien non, il ira directement en prison. Pourquoi tous ces contretemps? Sans doute par prudence. En détournant l'attention, on évite tout incident. Car les choses auraient pu mal tourner. Dans la foule de l'aéroport de Satellas, une femme a été interpellée. Elle était venue à l'aéroport avec une carabine 22 longs rifles. Renseignement pris. Cette dame avait été à l'âge de 5 ans internée avec ses parents au camp de Drancy. C'est sans doute pour éviter ce genre d'incident que Klaus Barbie a été directement conduit en prison, pas n'importe quelle prison, le fort Montluc, là où des centaines de résistants ont été internés et torturés il y a 40 ans. Lyon, Jean-Bernard Cadier, Europe 1.
Dans la foulée, on apprend comment Klaus Barbie sera jugé.
Ni procédure spéciale, ni juridiction d'exception, Klaus Barbie sera jugé publiquement et contradictoirement, ainsi que l'a prévu la loi française pour tous les criminels. Lorsque l'instruction sera close, la chambre d'accusation décidera, au vu de ce dossier, de faire comparaître l'ancien capitaine SS devant la cour d'assises du Rhône, où siégeront 9 jurés populaires, choisis par tirage au sort. L'inculpation prononcée étant celle de crime contre l'humanité, pourront se constituer partie civile toutes les associations qui estimeront avoir été poursuivies par Klaus Barbie en raison de leur religion, de leur ethnie ou de leurs idées politiques. Lyon, Xavier Collin, Europe 1.
Et que pensent les Français de son arrestation et de son procès qui se profile?
Qu'est-ce que ça va faire de juger un vieillard qui est peut-être... Hein, mais il, du point de vue de la justice absolue, je pense qu'il faut le faire, mais ça aboutit à rien. Je crois que maintenant, c'est un peu dépassé, ça ne rendra pas la vie aux gens qu'il a tués et ça ne consolera pas les survivants, alors.
Ah ben à mon avis, c'est une période qui est relativement noire, il ferait mieux de l'oublier plutôt que de... Enfin, à mon avis, ça va plutôt remémorer de mauvais souvenirs dans ceux qui ont vécu cette période. Il faut mieux oublier. Je n'ai pas connu cette période, alors Klaus Barbie, pour moi, c'est un anonyme.
Je pense qu'il mérite la mort pour tous les gens qu'il a tués et tout.
C'est pas un homme, c'est un tueur.
Vous dites ça, vous qui avez à peine 20 ans.
Bah oui, mais les images le prouvent. Les horreurs de la guerre, c'est pas normal qu'un humain réagisse de la sorte.
Je pense que ce beau salaud, il faudrait l'arrêter et le fusiller.
Il sera jugé à Lyon.
Ben, je l'espère. On sera là pour faire la claque, mais pas en sa faveur.
Vous êtes ancien combattant ?
Ancien combattant, mutilé de guerre, etc., etc. Et comme je souhaite qu'on le ramène à Lyon et qu'on le fusille. Tout simplement.
40 ans après ?
40 ans après.
C'est pas un peu tard ?
Pas pour moi.
Le résistant Christian Pinault a été interrogé par Klaus Barbie. Et il explique à Jérôme L'Enfant pourquoi ce procès est essentiel.
Ce qui compte, ce n'est pas la condamnation, c'est le procès. Il est indispensable que tous les faits soient connus de tous les Français. Et par conséquent, le procès de Klaus Barbie en France peut avoir une influence morale importante sur la jeunesse. Voilà ma première réaction.
Évidemment, en ce début d'année 1983, les journalistes veulent savoir quel sort lui est réservé en prison.
L'ancien capitaine SS n'aura droit à aucune dérogation au règlement. Barbie est un détenu comme les autres. si ce n'est que, pour assurer sa propre sécurité, on ne le mêle pas aux 140 hommes et 50 femmes emprisonnés comme lui au fort Montluc. Levé à 6h30, petit déjeuner à 7h, déjeuner à 11h30, dîner à 17h30, voilà le programme de la journée, journée au cours de laquelle Barbie reste enfermé dans sa cellule de 1m77 de long sur 2m30 de large. Dans les deux cellules jouxtant la sienne sont incarcérés plusieurs témoins de Jéhovah. Barbie a été examiné par deux médecins. Situation générale bonne, ont conclu les deux praticiens. Mais, par précaution, on transférera prochainement le détenu vers une autre prison lyonnaise, Saint-Paul ou Saint-Joseph, prison médicalement équipée et dans lesquelles la sécurité de Barbie sera plus facile à assurer. Il ne faut pas que qui que ce soit puisse se venger sur l'ancien responsable nazi. Il ne faut pas non plus que ce dernier puisse mettre fin à ses jours. C'est vivant que Klaus Barbie devra comparaître devant la justice des hommes. Lyon, Xavier Collin, Europe 1.
Le procès se déroulera 4 ans plus tard, en 1987, devant la cour d'assises du Rhône, et Klaus Barbie sera reconnu coupable de crimes contre l'humanité et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il mourra en détention en 1991.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1983.
En octobre 1983, à Saint-Flour, dans le Cantal, le GIGN est appelé à la rescousse pour déloger une famille, les Alboué. Ils n'ont pas payé leur loyer depuis plus de 60 ans. Et si on a fait appel à l'élite de la gendarmerie, c'est parce que les gens du coin disent que ces Alboué sont des barjots, qu'ils sont capables du pire. À 6h17 du matin, le GIGN colle une charge plastique sur la porte de la maison familiale et boum!
Cible atteinte, pas de blessés, 2 personnes interpellées, 1 mort.
La baraque est un vrai taudis. Elle pue la charogne.
Le GIGN, en moins de 30 secondes, réalise l'une des interventions les plus rocambolesques de son histoire. On trouve dans le même lit Hubert et sa sœur Esther, au milieu d'un invraisemblable capharnaüm, un entassement d'ordures, de vieilles boîtes de conserve et d'excréments. Dans une deuxième pièce, les gendarmes retrouvent le cadavre de Rémi, mort depuis au moins 3 ans. Ainsi s'achève l'incroyable histoire de la maison des fous, dont tout le monde ici parlait sans jamais avoir réussi à en percer vraiment le mystère. Quant à Esther et Hubert Alboué, ils ont depuis ce matin un nouveau toit, celui de l'hôpital psychiatrique. Saint-Flour, Jean-Pierre Gaufre, Europe 1.
La maison des fous, comme on l'appelle, la maison des Alboué, cache une histoire qui remonte à la Seconde Guerre mondiale.
À Saint-Flour, dans la ville haute, on l'appelait la maison des fous. C'est dans cette masure en pierre, juste en face du Carmel, qu'a vécu pendant près de 40 ans Esther Alboué. Son histoire hors du commun débute à la Libération. Esther a 22 ans, elle est employée des postes. Pendant la guerre, elle avait choisi le mauvais camp, les relations avec les Allemands, les dénonciations de résistants. Au moment de l'épuration, elle subit le châtiment le plus infamant. Elle est tondue et ses parents, honteux, décident de la punir plus encore. Ils l'enferment, l'attachent durant la journée et la font sortir seulement la nuit. Cela dure jusqu'à la mort des parents, il y a 15 ans. Esther se retrouve alors seule avec son frère, Rémi. Ils sont rejoints plus tard par leur plus jeune frère, Hubert. Ils ne sortiront plus jamais de la maison.
La fratrie Alboué vivait depuis sur la pension d'invalidité du frère aîné, Rémi. Et reclus, ils sollicitaient la boulangère du village pour faire leurs courses.
Vous nous envoyez une lettre par la poste, une lettre qui était très, très bien écrite, il n'y avait jamais de faute, elle était très bien tournée. Et il nous marquait ce qu'il voulait être livré et à quelle heure il fallait y être. Et on avait intérêt à être à l'heure parce que sinon on était plutôt mal reçus, quoi. Et si on y allait un autre jour, il n'ouvrait pas. Il ouvrait que simplement d'après l'heure qu'il nous avait indiquée.
Et encore, il ouvrait à peine. Puisque ça...
Ah bah, il n'ouvrait pas, la porte n'a jamais été ouverte. Je parle de la fenêtre, hein. Il n'était pas question d'ouvrir la porte. Non, non, c'était simplement tout se passer par les barreaux de la fenêtre, que ce soit des religieuses, que ce soit des pains, que ce soit n'importe quoi, il fallait tout passer par les barreaux de la fenêtre. Il fallait toujours prendre de la monnaie parce qu'il avait toujours des gros billets, 10 000, 20 000, il fallait prendre de la monnaie, sinon il ne payait pas. Si on n'avait pas la monnaie, ben, on remontait sans être réglé. Il était très difficile, ça allait jamais.
Et vous n'avez jamais essayé d'entrer, bien sûr?
Non, mon mari avait toujours dit qu'il rentrerait, mais il n'est jamais entré pour la bonne raison que la porte n'a jamais été ouverte. C'était pas simple, hein. D'autant plus que tout le monde était au courant, je pense pas que... Je vois pas pourquoi on a attendu tant de temps pour faire ce qui a été fait cette nuit.
Personne ne se risquait à s'approcher de chez les Alboué, comme le raconte ce voisin à l'envoyé spécial d'Europe 1.
Ils étaient armés, j'ai personnellement, il y a quelques années, j'ai entendu des coups de feu.
Ça fait quand même près de 40 ans qu'ils étaient là. Vous n'avez jamais cherché à percer le mystère, en fait?
Ah, C'est-à-dire qu'il n'y a pas 40 ans que cette situation existe. Cette situation existe depuis le décès des parents. Et nous avons tous cherché à éclaircir le mystère, mais personne ne pouvait entrer. Il y a eu des plaintes, il y a eu énormément de plaintes, notamment de la part du Carmel et d'autres gens. La police est venue, mais n'est jamais entrée. Ils étaient fous, il faut bien le reconnaître. Et on appréhendait qu'ils aient une crise et qu'ils tirent sur le premier venu.
Depuis 3 ans, Esther et son frère Hubert touchaient les 2000 francs de pension trimestrielle de leur frère mort. Mais que lui est-il arrivé justement à ce frangin ? L'autopsie de son cadavre momifié ne révélera aucune trace de violence ni aucun impact de projectile. Et faute d'indices criminels, Esther et Hubert ne seront donc pas inculpés et ils resteront en hôpital psychiatrique, une autre forme de réclusion.
1983, on de la raconte sur Europe 1.
C'était le tube Moonlight Shadow, chanté par Mike Oldfield.
Europe 1.
Après la pub, on continue à parler anglais, direction Londres et le hold-up du siècle. Encore un.
Oh là là, les filles, quelle gambette!
C'est nos cols en fil d'art qui vous tournent la tête.
Une telle fantaisie, ça en jette.
Avec nos cols en fil d'art, c'est tous les jours fête. Collant classique ou sophistiqué, collant nature, sport, mode ou branché.
Fil d'art présente ses collants pleins de fantaisie. Collant fin ou collant laine, uni ou plumetis pour être bien dans ses jambes.
Les collants dans le cou, faut les voir chez Fil d'art.
2000 boutiques Fil d'art, il y en a une près de chez vous.
1983, on de la traconte sur Europe 1.
Le 26 novembre 1983, au petit matin, dans la brume londonienne, des voleurs dérobent 3 tonnes d'or, du jamais vu dans l'histoire du hold-up.
Il est 6h40 ce matin et comme tous les jours, l'aéroport d'Heathrow, situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest du centre de Londres, connaît déjà une activité débordante. Non loin de l'aérogare, à 1 mile environ, un bâtiment moderne de briques et d'acier peint en marron passe inaperçu. On l'appelle le Brinks Mat Security Warehouse. En fait, c'est un centre de dépôt interdit au public et étroitement surveillé. Tout paraît calme, mais ce n'est qu'une apparence. 6 bandits armés ont réussi à s'introduire à l'intérieur du bâtiment en se jouant des systèmes de sécurité électronique et des caméras extérieures. Ils ont maîtrisé les gardiens, ceux-ci ont été ligotés et même arrosés d'essence. Si vous bougez, les prévient le chef du commando, je craque une allumette et vous flambez comme des torches. Les 6 bandits se mettent alors au travail. Il s'agit ni plus ni moins de transporter 3 tonnes de lingots d'or dans une fourgonnette qui attend non loin de là. 3 tonnes d'or, cela signifie un butin de 30 millions de livres, soit 36 milliards de centimes, le plus gros hold-up de l'histoire de Grande-Bretagne et peut-être du monde.
Ce n'est qu'une heure après le départ des voleurs qu'un gardien parvient à se libérer de ses liens et donne l'alerte. Frank Cater de Scotland Yard mène l'enquête. 7 mois plus tôt, il travaillait déjà sur une affaire similaire.
L'extraordinaire hold-up de ce matin, qui a duré presque 2 heures, de 6h30 à 8h15 selon Scotland Yard, ressemble étrangement à une opération similaire conduite à Pâques de cette année au Security Express Headquarters de Londres. Un commando s'était alors emparé de 7 millions de livres sterling cash, 84 millions de francs lourds, après avoir aspergé les gardiens de pétrole. Il est donc possible que les mêmes hommes aient agi ce matin au Brinksmat Security Warehouse, ce dépôt fréquemment utilisé par la Banque d'Angleterre pour tous les biens et valeurs transitant par l'aéroport international d'Heathrow. Les quelques 3 tonnes de lingots d'or volés ce matin, 600 barres de 11 kilos contenues dans 76 coffrets, étaient en partance pour l'Extrême-Orient, sans doute pour une ou plusieurs banques d'Hong Kong ou de Singapour, dont on ne connaît pas les noms.
Le problème pour les enquêteurs, c'est qu'il est très facile d'écouler des lingots d'or. C'est ce qu'explique René Cédillot, journaliste spécialisé dans l'histoire de la monnaie, au micro d'Europe 1.
Dans leur état actuel, ces lingots ne sont pas négociables. Ils ont une marque, ils ont un poids bien défini, un titre bien défini, et ce sont des lingots qui sont non seulement estampillés, mais répertoriés. Par conséquent, il ne faut pas les vendre sous cette forme-là. Il faut les refondre. Il est enfantin de refondre des lingots. Il suffit d'avoir un tout petit équipement, un four, de pouvoir porter le métal à une haute température, en faire une rivière d'or qu'on transformera à volonté en barres, en collier, en bracelet, en prothèse dentaire, les débouchés ne manquent pas.
Est-ce que ce vol de 3 tonnes d'or peut avoir une influence sur le marché mondial? Est-ce que c'est beaucoup ou finalement assez peu?
Non, c'est relativement peu. Et pour mémoire, je rappelle que la Banque de France dispose d'environ 2300 tonnes d'or. Alors 3 tonnes, effectivement, ça serait, à l'échelle d'un particulier, c'est considérable. Il n'y a pas de thésauriseur qui dispose de 3 tonnes d'or. À l'échelle des banques centrales, c'est tout de même relativement peu de choses.
Mais du côté de Scotland Yard, on pédale dans la semoule.
Toujours pas de piste sérieuse, 3 jours après le hold-up, pour le commandant Frank Cater, chef de la Scotland Yard Flying Squad, chargé de l'enquête. Les rares quotidiens nationaux qui ont pu paraître ce matin parlent de coup du siècle préparé de main de maître. Les autres se mordent les doigts, la grève des employés du livre leur a fait manquer l'affaire, mais aussi les grands placards publicitaires d'avant Noël. Manque à gagner pour les patrons de presse, 120 millions de francs en 48 heures. Pour revenir au vol des 3 tonnes d'or, les policiers cherchent toujours désespérément d'éventuels témoins. Toute personne susceptible d'apporter des informations est priée de téléphoner à Londres au 230 12 12.
Au pied du téléphone, on attendra un tuyau en vain et jamais les auteurs du casse du siècle londonien ne seront interpellés. En France, en 1983, on découvre le gang des postiches. Des truands qui dépouillent des banques, grimés de perruques, de fausses moustaches ou de fausses barbes. 1, 2, 3 banques en région parisienne, puis une 4e rue Clément Marot, juste à côté de la rue François 1er, où se trouve à l'époque Europe 1. Un reporter dégote des témoins de première bourre qui éclaire la violence du gang des postiches.
Je crois que les types étaient très énervés. Et à la fin, il y avait même des dialogues qui tournaient presque au comique, du genre « c'est toujours toi le dernier, dépêche-toi de fracturer ton coffre, on t'attend, les voitures sont-elles prêtes, etc. » Et puis finalement, les types sont partis en courant.
Vous êtes descendu dans les coffres, vous ?
Oh, je suis descendu voir un peu le saccage en bas. Il y a effectivement du sang partout, sur le marbre, par terre, le long des murs. Des flaques de sang qui témoignent de la violence des types, qui frappaient vraiment sauvagement pour le plaisir de frapper. Quant au coffre, il n'y en a pas un qui n'a pas été fracturé. Tout est pêle-mêle au milieu de la salle des coffres, les papiers, de l'argenterie qui traîne par terre, enfin c'est un désordre inextricable.
Le gang des postiches sévira encore 3 ans, jusqu'en 1986, avant de se faire pincer. Vous avez, j'espère, reconnu Police et son tube Every Breath You Take.
1983, on de la traconte sur Europe 1.
En 1983, un projet de loi socialiste pour l'éducation nationale, le projet Savary, met les étudiants en colère, et notamment les étudiants en médecine. Il prévoit d'instaurer un examen obligatoire en fin de deuxième cycle. Au mois de mars 1983, des étudiants en médecine escaladent la tour Eiffel pour y déployer une banderole.
C'est pas triste, on peut reconnaître. Bien qu'aujourd'hui le ZEF était un peu violent, mais la banderole finalement a tenu, c'était le principal.
Vous êtes allé jusqu'à quel niveau ?
50 mètres, je pense, sous l'arcade.
Pourquoi la tour Eiffel ?
C'est un rêve d'enfance en fait.
C'est un symbole en même temps, je pense.
C'est quand même assez dangereux d'escalader la tour Eiffel.
Aucun risque. On avait tous fait déjà de l'escalade avant, donc on a pris le maximum de précautions. Le fer c'est solide et plus solide que le rocher dans l'ensemble.
Et alors sur le plan médical, qu'est-ce qu'on ressent quand on fait un peu d'escalade comme ça sur la tour Eiffel ?
L'altitude est quand même relativement modérée, il faut reconnaître que...
Le rythme cardiaque était surtout dû aux gens qui étaient en dessous au CRS, mais peu tellement en fait à l'effort physique.
La prochaine expérience c'est quoi, le Sacré-Cœur ?
Ah non, c'est top secret, ça, vous savez.
À Tour Montparnasse, on s'y entraîne.
Et 24 heures après avoir escaladé la tour Eiffel, des étudiants en médecine assiègent le ministère de la Santé. C'est une première.
Depuis 14 heures, 300 à 400 étudiants en médecine occupent le hall et l'amphithéâtre du ministère de la Santé. Les carabins, en blouse blanche, entendent protester contre la réforme du troisième cycle des études médicales. La médecine, ça s'apprend certes dans les livres, mais également dans la pratique, disent-ils. Or, avec les examens successifs qu'on nous impose, on veut nous obliger à faire du bachotage. Nous ne sommes pas des feignants, au contraire, nous nous battons pour le sérieux de la médecine. Voilà en substance les critiques formulées ici contre la réforme rallye de Savary.
Que signifie cette occupation du ministère de la Santé ? Aujourd'hui, les étudiants en médecine ont envahi le ministère de la Santé. Plusieurs centaines d'étudiants sont là, de toute la France. Et nous sommes là pour protester contre la loi du troisième cycle qui a récemment été votée. Je tiens à préciser que nous sommes en grève contre une réforme des études médicales et uniquement contre celle-ci. Et si nous avons envahi le ministère de la Santé, c'est que nous pensons que nous dépendons plus, le troisième cycle en particulier, des études médicales et non du ministère de l'Éducation.
Les étudiants en médecine mécontents exigent de rencontrer le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Mais ce dernier refuse. Ah bah qu'importe, ils resteront sur place autant qu'il le faudra.
Dehors, les CRS quadrillent le bâtiment et occupent les points névralgiques du ministère. À l'intérieur, les slogans fusent, les colibets aussi. Des coups de téléphone sont passés à l'extérieur pour faire venir des provisions. Les étudiants sont à l'écoute des radios et se sont même fait apporter un poste de télévision. Il faut noter la difficulté de travail pour certains journalistes. Un représentant du ministère m'a arraché les fils du téléphone pendant que j'appelais la rédaction d'Europe 1. D'autres confrères sont plus mal lotis puisqu'ils n'ont même pas le droit de pénétrer dans le bâtiment. Au ministère de la Santé, Jean-Louis Calderon, Europe 1.
Les étudiants s'organisent pour veiller toute la nuit dans le hall du ministère. Et ça ne plaît pas du tout au ministre.
Il est 1h15 du matin au ministère de la Santé. Les forces de l'ordre viennent d'investir. Les forces de l'ordre viennent d'investir le ministère de la Santé. Vous pouvez entendre. Les 300 à 400 étudiants se sont massés. Ils se sont assis dans le hall à côté du piano sur lequel tout à l'heure on jouait du jazz. Ils sont assis par terre, ils se tiennent les coudes. Et les forces de l'ordre essayent de les desserrer les uns après les autres. Voilà les forces de l'ordre qui essaient de desserrer les étudiants qui se tiennent par les coudes.
Ce qui vient de se passer au ministère de la Santé est tout à fait inadmissible. Les étudiants en médecine qui occupaient passivement ce ministère, qui s'étaient assis dans le ministère, ont été évacués à coups de matraque. De nombreux étudiants sont sortis, saignants, les lunettes cassées. Et ce qui se passe actuellement est inadmissible. Il faut le dénoncer devant tous les Français qui nous écoutent.
Hier, nous sommes rentrés dans le ministère de la Santé à 14h pour obtenir une audience du ministère. Nous étions tout ce qu'il y a de plus pacifique, tout ce qu'il y a de plus gentil. On s'est fait vider comme des malpropres du ministère. Les policiers sont tombés sur nous avec matraque, ne se sont pas gênés pour frapper les gens, pour les tirer par les cheveux. On a été vidés, je peux le dire, vidés du ministère comme des bandits. Le mouvement ne s'arrête pas pour autant. Au contraire, nous avons été tellement révoltés par ce qui s'est passé hier que nous continuons. Nos revendications sont justes. On ne nous stoppera pas comme ça et nous continuons.
Cette nuit au ministère a mis le feu aux poudres et la France estudiantine est maintenant dans la rue. Des manifestations de plus en plus violentes qui rappellent parfois mai 68. Le 11 mai, à Paris, Lyon, Lille et Bordeaux, les étudiants édifient des barricades. Le 20 mai, le président de l'université d'Assas est séquestré pendant plusieurs heures dans son bureau. Et le 26 mai, les étudiants s'infiltrent sur le plateau du 20h d'Antenne 2 lors du journal de Patrick Poivre d'Arvor.
Voilà, inutile de vous dire que ce journal était difficile à présenter. Vous avez entendu les manifestations de 50 étudiants qui, depuis le début de ce journal, l'envahissent. Comme nous n'avons pas l'habitude de céder à quelques pressions que ce soit, nous sommes obligés de terminer l'antenne avec un petit peu plus avance.
Le son du micro-cravate de PPDA est coupé au moment même où un étudiant s'approche de lui pour délivrer son message. Cette coupure symbolise curieusement la fin du mouvement de contestation. Il disparaît avec l'arrivée des examens et des grandes vacances. Et le projet de loi Savary est voté et voit le jour.
1983, Ondelat raconte sur Europe 1.
À chaque fois que nous fouillons dans les archives d'Europe 1, nous y trouvons des pépites. Des sujets légers qui font sourire et qui, l'air de rien, en creux, marquent leur époque. Par exemple, à l'automne 1983, Alexandre Lichamp a déniché le tout premier théâtre pour chiens.
Oh, oh, tu m'as tué. Oh,
c'est moi, Jay.
Est-ce que ça a plu à votre chien, d'après vous?
Il remuait la queue tout le temps, ça prouve qu'il était intéressé.
De plus en plus, le théâtre doit toucher un large public. Et nous, on s'est dit, tiens, finalement, il y a 7 millions de chiens en France qui n'ont aucune distraction et qui n'ont pas de théâtre. Et
ils sont très défavorisés, c'est ça?
C'est vraiment des défavorisés de la culture, c'est vraiment le cas typique, ce sont vraiment des exclus de la culture. Et nous pensons qu'il faut ouvrir les portes de la culture pour tous.
Alors là, c'est une pièce donc grecque.
Oui, on a pris une adaptation un peu libre de Prométhée enchaîné d'Eschyle.
Pourquoi?
Parce qu'il faut commencer par le début avec les chiens. Vous pouvez pas commencer par du théâtre contemporain, vous pouvez pas commencer avec un Beckett ou un Ionesco. Ils pourraient pas comprendre tout de suite, c'est trop tôt.
Et j'ai entendu que la plupart des noms des personnages terminent par os.
Mais je sais pas pourquoi, c'est un hasard. Si le dieu du théâtre s'appelle Dionys Os, et si tous les termes grecs se terminent par os, moi j'y peux rien, et c'est un hasard, ça. C'est un complet hasard.
Et vous allez recommencer?
Ah oui, bien sûr, on va essayer de se faire ouvrir une maison de la culture pour chiens. On a envie de se spécialiser là-dedans, parce que ça nous intéresse. C'est vrai que
quel est le meilleur spectateur? C'est le berger allemand, le caniche, le teckel?
J'ai l'impression que les bergers allemands sont très bons. Les dalmatiens sont très bons aussi. Hein. Les gros chiens sont plus en confiance, ont moins peur.
Et comment savez-vous que votre spectacle a plu aux chiens?
Quand un chien aboie, c'est qu'il est content.
Puisqu'on parle des chiens, vous savez qu'ils sont le pire ennemi des facteurs. Europe 1 en a trouvé un en Champagne qui a été mordu 46 fois pendant toute sa carrière.
À Courtauvent, un petit pays à côté de Vinos, là, ça faisait 15 jours, 3 semaines que j'allais apporter le courrier à cette maison-là. Jamais le chien ne m'avait rien dit. Et alors la fille était à la maison. Alors je lui dis, tiens, la gamine, tiens, t'es en vacances? Elle me dit oui, puis c'est tôt. Je sors de la maison. En arrivant dans la rue, le chien il me saute dessus. Et il a déchiré le pantalon, il était en cible dans la cour. Alors vous voyez, il a une fière allure. Hein. La fois que j'étais mordu 5 fois dans la même maison, 5 fois la même semaine, par le même chien. Alors la dernière fois que j'étais mordu par ce chien-là, j'avais bottes, culottes, chaussettes, et il a trouvé le moyen de mordre la viande.
Et les maîtres, ils vous préviennent pas avant que vous rentriez si les chiens sont dangereux ou...
Ah non, les trois quarts du temps, les gens disent les chiens sont pas méchants.
Mais comment vous expliquez que vous soyez fait mordre 46 fois par des chiens au cours de votre carrière?
Je ne sais pas. Est-ce que je dégage une odeur personnelle? Je ne sais pas.
Aujourd'hui, évidemment, c'est plus pareil, hein, puisque les facteurs se contentent souvent de laisser des avis de recommandés dans la boîte aux lettres en disant que vous êtes absent. C'est à cause des clébards, hein, sans doute.
J'avais déjà un cœur de rocker. Je n'aimais pas beaucoup l'école. Je ne vivais que pour mes idoles. Yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah.
Je n'étais encore qu'un teenager. Je suis parti vivre ma vie en outsider. Mon père voulait me retenir. Tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est tu vas faire mourir ta mère. Maman, je t'aimais quand même.
C'était Julien Clerc avec son tube Kurt Rocker. Merci Aimé Marlou, Guillaume Maury, Julien Pichenet d'avoir fouiné dans les archives pour moi. Réalisation signée Guillaume Vassaud, sans oublier bien sûr Laetitia Casanova à la documentation sonore d'Europe 1. Ainsi se termine notre série en 5 épisodes consacrée à l'année 1983. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.